Bonjour à toutes et à tous. Un mois pour aimer, effectivement, et ce matin, j'ai intitulé mon message « Joie profonde ou joie complète et amitié avec Jésus ». J'avais prêché sur ce texte lors du premier culte radio il y a 2 semaines, puis comme le culte radio, il y a un timing qui est assez serré, vous l'avez bien vu, j'ai pas eu le temps de finir, alors j'étais un peu frustré. Alors vous avez droit à la deuxième partie ce matin, exprès pour vous, en exclusivité. Il n'y a personne d'autre en Suisse romande qui nous écoutera. On est les seuls. Et c'est le verset 9 du chapitre 15. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Je ne sais pas vous, mais ce matin, j'ai déjà pu expérimenter cela. Dans ce temps de louange, il y a pour moi une expérience de demeurer dans l'amour du Père, de demeurer avec vous toutes et tous dans cet amour qui nous unit au même Père. Et je trouve ça juste beau. Puis je me dis que si en tant qu'Église, on est seulement ça, un lieu où on peut demeurer dans l'amour du Père tous ensemble, ben comme diraient les Vaudois, c'est déjà pas mal. Pas dire que c'est bien, mais c'est déjà pas mal. Quels sont ces lieux dans ma vie? On se pose cette question-là parce qu'on en a besoin, je crois, en tant que croyant. Ben, je crois que nos communautés, nos églises locales, ces occasions de se réunir ensemble autour du Christ, autour de sa parole et autour simplement de qui est Dieu comme Père pour chacun d'entre nous, c'est capital. Et ces lieux, ils nous sont offerts. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit reconquérir à chaque fois. Se demeure dans l'amour de Dieu, ce n'est pas nos efforts, c'est vraiment quelque chose qu'on accueille. Et là, on a vraiment cette idée de grâce. Quand on demeure dans l'amour de Dieu, pour moi, c'est une des meilleures définitions de la grâce. Demeurer là où il est déjà, où il est déjà présent. Et du coup, ça a 3 conséquences vitales pour notre vie de foi. La première, c'est que nous pouvons expérimenter une joie parfaite ou une joie complète. La deuxième, et c'est assez extraordinaire de le constater, on peut développer une amitié avec Jésus. Et la troisième, on devient capable de porter du fruit. Alors allons-y un peu, vous verrez que j'invente rien. Je reprends simplement les paroles que Jésus donne à ses disciples dans ses discours d'adieu. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Pour être heureux, aimez. Je vais se tenir un slogan de cette prédication ce matin. Allons-y avec ça. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, de chercher. Pour être heureux, aimez. Ou aimons, parce que c'est un truc qu'on fait ensemble généralement. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais d'un état relationnel, d'une manière d'être en Dieu et en lien avec son prochain. Nous l'avons vu, les deux se rejoignent de manière intime et profonde, et on le voit encore là, pour être heureux, aimons. On parle beaucoup dans notre époque de réalisation, surtout réalisation personnelle ou bien réalisation communautaire. Il nous faut construire des trucs, il nous faut réaliser quelque chose. Et puis pour ça, ben, on va mesurer après à quel point on a accompli notre degré de réalisation. Ce n'est pas le message de la Bible pour être heureux. Le message de Jésus pour être heureux, ce n'est pas se réaliser, c'est être en relation. Ça se ressemble, mais ce n'est pas exactement la même chose. On n'est pas en train d'accumuler les choses pour nous et puis de construire notre petite vie, voire notre petite maison, voire notre petite je ne sais pas tout quoi. On n'est pas en train d'accumuler X choses, puis en se disant « là, je vais pouvoir enfin être heureux quand j'aurai assez atteint ce stade-là ». C'est beaucoup plus simple d'une certaine façon, puis beaucoup plus compliqué. Jésus nous propose d'être à l'horizontale, en lien, en relation, les uns avec les autres et avec lui. Et ainsi, demeurer en Dieu, ce n'est pas accumuler chaque fois un peu plus de présence sur mon compte en banque spirituelle, c'est simplement être avec ce que lui a à me donner chaque jour. Il n'y a pas de notion d'accumulation, il n'y a pas de notion de réalisation, il n'y a pas de notion de performance, il y a une notion d'être là et d'accueillir qui il est vraiment. Et je trouve que ça fait du bien. Et si on s'imagine le vivre et si on reparle de ce qui nous a habité en tant que vie de foi, et on s'imagine ces moments-là comme on a vécu ce matin, on se rend compte effectivement que ça nous procure une joie profonde. Une joie profonde de se sentir aimé tel que l'on est, de se sentir entouré. Et finalement, il y a, il me semble, là quelque chose qui dépasse même les frontières de l'Église, qui est même, je dirais, universel. Pas quelque chose qui ne concerne que les chrétiens, mais finalement, cet élargissement des relations et d'être dans une joie complète quand on est en relation les uns avec les autres, j'ai l'impression que ça va bien au-delà de nos cercles d'Église ou de nos cercles de foi. On en a besoin en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'homme, on en a besoin. Parce que je crois que c'est un peu ce que nous dit ce film que j'ai vu quand j'étais jeune, qui s'appelait Into the Wild, et puis qui met bien en évidence cette tension dans laquelle on est, d'après moi, de manière assez forte et essentielle dans notre époque. C'est que c'est un jeune qui a essayé différentes manières de se réaliser, finalement. Il était brillant étudiant, il a tout plaqué pour essayer X métiers, pour finalement se retrouver tout seul au fin fond de l'Alaska, perdu dans un bus, parce que son idéal de vie, c'était d'être en lien fort avec la nature. Parce qu'il avait finalement essayé toutes ces pistes diverses et variées, sans pouvoir trouver la source de la paix et la source de la joie. Et puis, il en est décédé de son aventure parce qu'il s'est retrouvé perdu au milieu de l'Alaska et puis il n'a plus eu de quoi simplement se nourrir. Et il est mort de faim. Et on a retrouvé ce bus et puis une des dernières phrases qu'il a écrites dans son carnet, parce qu'il a tenu un carnet quasiment jusqu'à la fin, c'est une phrase en anglais, « Happiness only real when shared », signifie « La joie ou le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé ». Je ne sais pas à quel point il avait suivi son catéchisme, je ne sais pas à quel point Dieu lui avait peut-être parlé dans son bus, je ne sais pas à quel point il a pu faire des expériences, mais toujours est-il que, et là il est, je trouve, un peu paradigmatique de notre époque, ce jeune homme, il allait au fond de tout pour arriver à cette conclusion-là. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Ça signifie un peu ça, hein, ce que nous dit la parole. Hein. Pour être heureux, aimer, ou pour être heureux, aimons. Le bonheur n'est réel lorsqu'il est partagé. Et je crois que c'est tout simplement ce que Jésus nous dit, que ce bonheur qu'on recherche à coup de X choses, on peut le trouver de manière beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus compliquée, parce qu'on se rend compte que les relations, ça ne va pas toujours de soi, ça ne va pas toujours de manière si facile que ça. Par contre, ça reste notre essentiel. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que l'essentiel il change de perspective. Ça reste cet essentiel-là, et c'est exactement ce que nous dit Jésus. Et peut-être ce qui nous différencie, nous en tant que croyants, par rapport à tous ceux qui ne sont pas non-croyants, c'est qu'on peut mettre notre confiance dans celui qui a pris sur lui cet essentiel, qui nous l'a montré, et puis mieux encore, qui vient habiter en nous, parce que comme le Père demeure en moi, lui va aussi demeurer en nous, pour nous montrer cette voie. Parce que cette voie, elle n'est pas hyper évidente, c'est clair et net, mais je crois que Jésus vient nous la montrer. Et c'est peut-être ce qui fait la différence avec le protagonisme de ce film « Into the Wild », qui est une histoire vraie. Hein, il a été mis en film, mais c'est une histoire vraie. Et voilà ce que nous dit Jésus. « Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. » Et là, on se rend compte, si on doit donner une autre définition de l'amour, aimer, c'est donner, et donner jusqu'à sa vie. Je ne sais pas si vous avez tous été piégés ce matin, parce que Valérie, il a pris plusieurs chants qui allaient dans cette direction-là. Donc, on l'a tous prononcé, en tout cas, au moins une fois ce matin, que je te donne tout, je te donne même jusqu'à ma vie. C'est des sacrés engagements hein, qu'on prend sans rendre trop compte quand on chante ces chants. parler des chrétiens persécutés, ça nous impressionne toujours, et pourtant on le chante assez régulièrement, et on se dit, on se place dans ces pas-là, on veut suivre Jésus aussi dans ces pas-là, et il nous donne une définition hyper exigeante, quand je dis que ce n'était pas si facile que ça. Je savais ce qu'il y avait à la suite, peut-être pas vous. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Là, on reste un peu sans voix, on reste un peu, je ne sais pas comment vous êtes là, un peu circonspect parce qu'on se demande, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est dans mes cordes? Il y a de quoi en douter, toujours est-il que Jésus, lui, l'a incarné, et quand on dit qu'il vient nous rejoindre là où nous en sommes avec ce qu'il a fait pour nous, c'est qu'il allait jusqu'au bout de ce qu'il a prononcé. Et c'est en cela qu'il fait toute la différence. Ce n'est pas quelqu'un qui a simplement donné des enseignements et qui s'est retiré. C'est quelqu'un qui a donné ses enseignements et qui les a incarnés, qui les a fait vivre en lui et avec tous ses disciples. Vous, vous êtes mes amis, si vous faites ce que moi, je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Amen, amen, je vous le dis. Alors, je dirai après ça. Vous, vous êtes mes amis. Non seulement c'est notre exemple, non seulement c'est notre sauveur, mais en plus de cela, j'ai envie de dire, ou bien pour résumer le tout, il devient notre ami. Est-ce que c'est une amitié avec Jésus, dont j'ai envie de prendre soin? Est-ce que lorsque l'on vous pose la question avec qui vous êtes ami, vous pensez parfois à Jésus ou bien en premier lieu à Jésus? Vous imaginez un peu le Fils de Dieu qui est considéré comme étant notre ami. Et avec nous aussi, il est dans cette logique du don. Il nous donne son amitié à nous. Indépendamment de ce qu'on a fait, de qui on est, de quel est notre statut de réalisation. Il vient et il nous offre son amitié. Il nous offre sa vie. Et on va partager la Sainte Cène tout à l'heure. Ce sera un beau moment où on pourra revivre cette amitié avec Jésus. Et amitié avec le Christ, vous avez vu ce que ça signifie? Qu'est-ce qui fait la différence des amis des autres? C'est que Jésus nous fait connaître certaines choses. Il nous fait connaître même tout ce qu'il a entendu de son Père. Et là aussi, il y a une forme de générosité. Il y a une forme de générosité dans ce qu'il nous donne en tant qu'ami. Il ne reste pas en retrait, caché, mystérieux, parce qu'il y a tout un courant de pensée chrétien qui va très très fort là-dedans, que Dieu, on ne peut rien en dire, que c'est très mystérieux, que c'est le tout autre. Il y a une part qui nous dépasse, c'est clair et net. Mais il y a une part qui nous fait connaître. C'est fou de dire simplement que Dieu est mystère. Je suis un peu carré, là. Il est aussi mystère, mais il est aussi celui qui se révèle. Et dans l'amitié que nous avons avec Jésus, ce n'est pas orgueilleux de dire que nous pouvons connaître quelque chose de lui. Ce n'est pas se mettre à la place de Dieu. C'est assumer notre statut d'ami de Jésus. Alors après, on peut l'assumer avec beaucoup d'humilité, de subtilité, puis essayer d'éviter les abus, ça c'est une évidence. Mais par contre, de se cacher derrière le fait que tout est mystère et puis que de toute manière, on ne peut rien en dire, ce n'est pas un discours de disciple, j'ai envie de dire. Le disciple, il ose dire, oui, je connais certaines choses de Dieu et j'ose les partager à mes frères et sœurs, à l'Église qui est là autour de moi. Parce qu'en tant qu'ami, Jésus nous fait le don de nous faire connaître certaines choses de lui. Il ne reste pas caché ad aeternam. Et on se rend compte aussi que c'est une amitié asymétrique, c'est-à-dire qu'on n'est pas au même niveau que Jésus. Parce que quand on est ami, on pourrait se croire, ben oui, il y a une forme d'égalité. Il y a une forme d'égalité parce qu'il nous fait connaître certaines choses, mais il y a aussi ce qu'on appelle une amitié asymétrique, où on n'est pas au même niveau, où on reste finalement dans une relation d'écoute et de demande. Et c'est là que vient ce texte un peu plus loin dans le discours, dans Jean 16, verset 22. D'abord, verset 24, pardon. « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » On reste dans ces idées d'échange, de relation, ça bouge. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. La condition de notre relation, la condition de cette joie finalement, ce n'est pas tellement la question du salut qui nous est déjà donnée où on demeure, mais c'est notre attitude de cœur où on se met dans cet état de dépendance avec Dieu et tout simplement ça signifie par la forme d'une demande. Et si on prend la prière du Notre Père, on se rend compte que c'est que des demandes à Dieu. Donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous, que ta volonté soit faite. Toutes ces demandes sont là pour signifier qu'en tant qu'ami, j'ai toujours besoin de cette amitié dans tout ce que je fais. Trois conséquences vitales pour notre vie de foi, la joie complète ou parfaite, l'amitié avec Jésus et le fait de porter du fruit. Je l'ai mis exprès à la fin parce que c'est assez important de voir que ce que nous allons faire, ce n'est pas pour moi et de nouveau ma réalisation, mais de suite, il y a cette perspective de donner autour de soi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous vous alliez, pour que nous nous allions et que nous portions du fruit et que notre fruit, là aussi, il demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jean 15, verset 16. Je fais un peu des sauts à gauche, à droite pour ceux qui suivent dans leur Bible. C'est pour dire que ces discours, ils n'arrêtent pas de s'imbriquer les uns les autres. Tout ce que transmet Jésus à ses disciples dans ses discours d'adieu, ça s'imbrique. Prenez-les vraiment 13 à 17, méditez-les jour et nuit, j'ai envie de dire. Vous verrez à quel point ça va s'imbriquer les uns dans les autres. Et dans le verset 4, il y a cette image du cep, et Jésus il dit « Demeurez en moi comme moi en vous, tout comme le sarment, qui est la branche de la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure de la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. » Et verset 8, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. » Et là, je saute dans un autre évangile même. « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, donc, brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vous voyez comme ça s'imbrique ? Moi, ça me fascine toujours, deux auteurs différents, Matthieu, Jean, deux époques différentes, deux contextes différents, et on arrive exactement sur les mêmes enseignements, sur les mêmes essentiels de la foi, qu'ils voient vos belles œuvres, que vous portiez du fruit, et que ce fruit serve uniquement à glorifier notre Père qui est dans les cieux. C'est beau, hein, ces échos dans l'Écriture, comme ça se rejoint. Et pour moi, le fait que Jésus nous annonce qu'on a porté du fruit, c'est vraiment une belle forme d'optimisme et pas d'optimiste avétéré. Quand on dit que Jésus croit en nous, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas pour nous consoler, puis on se dit qu'on est un peu mauvais, puis on nous dit de la positive attitude à l'Église ou bien pensée positive, puis on nous dit « mais allez-y, franchement ». Non, c'est une réalité qui découle de cet état d'appartenance, de cette amitié qu'on a avec Jésus. D'une certaine manière, aux yeux de Jésus, une fois qu'on est sauvé, on n'est plus uniquement des pécheurs. Il y a plutôt un élan qui nous soutient puis qui nous dit « mais allez, on y va là ». Et d'ailleurs, c'est le terme qu'il emploie. « Allez-y les gars, je veux que vous alliez et que vous portiez du fruit ». Et je trouve, et puis moi je me mets complètement dans cette catégorie-là, qu'en tant que chrétien, on se cache des fois parce qu'on se dit « ouais, ben, je ne suis pas parfait » ou bien « on attend d'être parfait avant d'agir » ou bien « on se dit là, punaise, regarde, c'est mon péché qui reprend le dessus, donc autant ne pas y aller. » Ça ne vous arrive jamais, à ce genre d'excuses, mais moi, ça m'arrive en tout cas. Et puis là, on se dit « est-ce que je suis dans la vérité de ce que Jésus m'enseigne ou est-ce que je suis dans les fausses excuses que je me construis ?» Je crois que c'est un peu une question rhétorique, hein, mais on est au clair. Mais j'ai envie de nous dire, allons-y à la suite du Christ, avec son amitié, avec son amour. On a toutes les raisons d'être confiant dans nos propres actions aussi. Et le but n'est pas personnel, hein, de nouveau, parce qu'on pourrait se dire que c'est quand même assez cool d'avoir comme conséquence une joie parfaite et pour l'amitié avec Jésus. C'est pas mal, hein, on se dit là, en termes de réalisation, de nouveau, on est bien. Et là, on se rend compte que non. Quel fruit ? C'est pas personnel. Ce fruit, vous devinez ce que c'est, hein, il termine là-dessus. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre que celui-là. Aimer l'essentiel, c'est pratique parce qu'on arrive à des choses qui sont vraiment très synthétiques. Hein. On prend toute une 66 livres qui se réunissent finalement dans une seule phrase, dans un seul commandement, dans deux commandements qui se mélangent tellement bien les uns les autres qu'on n'arrive plus vraiment à discerner lequel des deux est différent de l'autre. Aimez-vous les uns les autres et en aimant les uns les autres, c'est un peu ce qu'il nous dit aussi, on va aussi demeurer dans l'amour de Dieu. Et je crois qu'on l'expérimente aussi dans ces moments où on a des bonnes qualités relationnelles, où on a des bons temps de partage, d'amitié justement, les uns avec les autres. Est-ce que ce n'est pas déjà là une manière aussi de demeurer dans l'amour de Dieu? Est-ce qu'on y pense quand on a ces bons moments avec celles et ceux qui nous entourent comme étant aussi des moments où simplement on demeure carrément dans l'amour du Père? Et je nous laisse avec cette question. Si on considérait nos relations, imagine la prochaine fois que vous allez voir des personnes, peut-être ce sera pour l'apéro dans une heure, peut-être ce sera pour un repas dans une heure et demie, peut-être ce sera ce soir. Les moments que vous allez partager, est-ce qu'ils auront cette odeur de demeurer dans l'amour du Père? Peut-être on se dit, oui, non, ça va être un peu compliqué, j'ai un truc un peu... Et puis, une deuxième piste d'encouragement, est-ce qu'on arrive vraiment à prier pour ces moments-là qui nous arrivent dans nos vies, spécifiquement au niveau relationnel? Pas au niveau de ce qu'on va réaliser, de ce qu'on va faire, ce qu'on va vivre, mais simplement qu'on puisse axer notre prière sur les relations qu'on va vivre. C'est un peu les pistes que je nous lance comme ça, que je nous laisse, et puis que je vais aussi apporter maintenant en prière à notre Dieu. Je nous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu nous as donné ton Fils, Jésus, qui est venu dans nos vies, qui est venu habiter en nous, et qui nous fait ce don extraordinaire de son amitié. Une amitié qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de qui on est, mais une amitié qui est là, qu'on la ressente ou pas, et qui nous provoque en nous une joie qui nous dépasse, une joie complète, une joie parfaite. Alors Seigneur, je te prie pour cette relation d'amitié que nous avons avec toi, qu'elle puisse croître, qu'elle puisse grandir en nous, et qu'elle puisse nous donner cette confiance nécessaire pour porter du fruit. Porter du fruit au niveau des relations que nous avons les uns avec les autres. Seigneur, on a vraiment besoin de ton secours, de ton aide dans ce domaine-là. Et je crois que ce secours, il vient de cette relation intime que nous pouvons tisser avec toi jour après jour. Et cette relation intime aussi que nous allons vivre maintenant avec ce temps de cette scène, qui nous rappelle ce don extraordinaire que tu nous as fait et que nous voulons prendre comme un signe d'amitié renouvelée entre toi et nous, entre toi et moi. Et je te loue pour cela, mon Père. Amen.